séance. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
Lors de la séance du 23 octobre 2006 de l'Académie des sciences morales et politiques, l'économiste Daniel Cohen faisait une communication sur le thème « Réflexion sur la société post-industrielle ». Professeur de sciences économiques à l'École normale supérieure, il est aussi directeur du CEPREMAP, le Centre pour la recherche économique et ses applications, et l'auteur de « Trois leçons sur la société post-industrielle », publié au Seuil en 2006.
Monsieur le Président, merci de cette invitation et de venir m'exprimer devant des gens beaucoup plus compétents que moi. J'en vois quelques-uns autour de moi qui ont laissé aussi, à l'économie ses lettres de noblesse, l'économie française ses lettres de noblesse. Et encore une fois, c'est avec beaucoup de modestie que je me prépare à prononcer quelques propos sur cette notion de société post-industrielle, puisque c'est le thème de la communication d'aujourd'hui qui est tiré du livre, en effet, que je viens de publier, qui s'intitule « Trois leçons sur la société post-industrielle ». Alors, choisir comme axe d'entrée dans l'analyse des transformations du monde contemporain la notion de société post-industrielle, c'est évidemment choisir un angle qui est partiel et qui ne fera pas justice à tout ce qu'il faudrait dire pour comprendre ce qu'on va appeler les modifications, les bouleversements du capitalisme contemporain. Mais je pense que c'est une notion qui est utile, qui vient après beaucoup d'autres auteurs qui l'ont abordée, mais qui est utile car elle fixe, au fond, d'une certaine manière, et pour commencer, ce que la société actuelle n'est plus. Et je voudrais commencer par cela. Ce que la société actuelle n'est plus, ce que l'économie aujourd'hui ne fait plus et qu'elle faisait auparavant, c'est justement de faire société au sens où on pouvait parler, il y a encore une trentaine d'années, de société industrielle. Je voudrais dire quelques mots pour commencer à ce propos, quelques mots rapides et qui naturellement s'exposent au risque d'être simplificateurs. On peut, je crois, parler, pour caractériser ce qui s'est passé en allant très vite du début du 19e siècle jusque, disons, 1973, de 1913 à 1973, pour prendre un bref 20e siècle, on peut parler de société industrielle au sens où, justement, l'industrie était le siège d'une activité de production qui, d'une certaine façon et à l'image de la société féodale, liait un mode de production et un mode de protection. Dans l'usine, telle qu'on a pu la connaître à son âge d'or dans les années 50, on peut dire que tous les étages de la société étaient représentés. On avait des ingénieurs, on avait des ouvriers, on avait des patrons, et au fond, chacun fonctionnait de manière solidaire. Les ingénieurs réfléchissaient à la manière de rendre productifs les segments de la société qu'il était le moins. Les ouvriers sans qualification, les OS, comme on les a appelés longtemps. Et le travail à la chaîne marque l'unité du haut et du bas de la société. L'ergonomie, la réflexion industrielle vise à faire en sorte que le travail à la chaîne soit productif et donc permette aux ouvriers non qualifiés de prendre leur part à la production nationale. De la même manière, on peut dire qu'à l'époque, dans cette société industrielle, les dirigeants d'entreprise partageaient avec leurs salariés la condition salariale de ces salariés. Les dirigeants d'entreprise étaient des salariés comme les autres, qui gagnaient davantage que leurs employés. Plusieurs anecdotes circulent à ce sujet. John Pierpont Morgan, le grand banquier américain, disait « Je ne prêterai jamais à une entreprise dont le dirigeant gagne plus que 20 fois le salaire de ses ouvriers ». Rockefeller, lui, fixait la barre à 40 fois le niveau de ses salariés. Mais tout ça, au fond, ces anecdotes témoignent bien du fait que les dirigeants étaient des salariés comme les autres, qui, à ce titre, partageaient les préoccupations de leurs salariés. Et ces préoccupations, elles se résument à une chose très simple, c'est tout simplement de chercher à protéger ces salariés des risques industriels auxquels l'activité dans laquelle l'entreprise était engagée exposait ces salariés comme ses dirigeants. À l'époque, on raisonne en termes de portefeuille d'activités qu'une entreprise doit comporter pour être protéger des aléas de la conjoncture industrielle. Une anecdote par laquelle je commence mon livre, c'est qui est évidemment fausse, mais qui, je crois, illustre ce propos. Si une entreprise, dans les années 50, fabrique des maillots de bain, eh bien, elle va sans doute aussi chercher à fabriquer des parapluies pour être diversifiée du risque de la conjoncture climatique, pour faire en sorte qu'il y ait toujours du travail à faire, quels que soient les aléas de la conjoncture industrielle. Au fond, on peut parler, à propos de cette société industrielle, de holisme industriel, c'est-à-dire un tout où chaque partie est associée par, justement, une réflexion collective des ingénieurs, des dirigeants, qui fait que la société est tout entière représentée dans ces usines. Alors, c'est cette société industrielle que nous avons quittée, et c'est tous ces liens qui liaient mécaniquement les différents étages de la société, dont la société post-industrielle nous laisse orphelins. Alors, il y a plusieurs manières de rendre compte d'abord des éléments qui ont fait que cette transformation se produise. Je pense que l'erreur intellectuelle, presque épistémologique, ce serait de chercher à en tirer une, à en privilégier une sur les autres, et de dire « voilà la cause de cette transformation ». Et dans le petit essai que j'ai écrit, je préfère mettre à plat plusieurs causes pour expliquer comment elles font masse, comment, au fond, elles trouvent entre elles une cohérence, plutôt que de dire qu'une des causes l'emporte sur les autres. Et donc, je vais vous donner très brièvement la liste de ces causes, pour en souligner une ou deux qui me paraissent plus significatives des précédentes, même si je pense encore une fois que, en termes d'importance qualitative, il faudrait donner à chacune toute sa place. Alors, la première cause la plus simple qui permet de rendre compte de cette transformation, c'est que nous sommes tout simplement les contemporains d'une révolution industrielle. On peut parler de troisième révolution industrielle qui vient, par hypothèse, derrière les deux précédentes. La révolution industrielle qui vient à la fin du XVIIIe siècle, celle qu'on associe pour aller très vite à la machine à vapeur, qu'on a longtemps appelée d'ailleurs la révolution industrielle. La seconde révolution industrielle qui vient un siècle plus tard, à la fin du XIXe siècle, qu'on associe à l'électricité, au moteur à explosion. On a parlé de l'aérospatiale qui fait partie naturellement des grandes découvertes qui va marquer le XXe siècle et qui s'associe à cette troisième révolution, à cette seconde révolution industrielle. Il faudrait aussi citer naturellement les industries chimiques et l'industrie pharmaceutique qui va suivre. Et puis, on a envie de dire au rendez-vous de l'histoire, un siècle plus tard, hein, comme disait Schumpeter, les révolutions industrielles, elles viennent toujours par grappes, dans un espace de temps très concentré. En fait, c'est presque toujours les années 70 de la fin de chaque siècle, les années 1770, les années 1870, enfin, je mords un peu, car beaucoup de choses se sont passées dans les années 80, évidemment, et puis les années 1970, qui voient brutalement un certain nombre de technologies nouvelles émerger. Ces technologies, on peut donner quelques dates qui sont un peu emblématiques de cette transformation. Une première date, c'est la mise au point par le Pentagone américain d'un système qui s'appelle ARPANET, qui va être ensuite développé par le CERN en Europe, qui cherche à protéger le ministère de la Défense américain des risques d'une frappe nucléaire soviétique. C'est l'origine de cette invention d'une transmission par paquet qui peut, même dans un état mauvais des systèmes de télécommunication, permettre que les communications se fassent. 1971, c'est la mise au point par la firme Intel du premier microprocesseur, qui est le cerveau des ordinateurs. Et puis 1976, pour donner une troisième date, la commercialisation par la firme Apple du premier ordinateur de bureau. Et à partir de ce triangle de sustentation, qui se fait en quelques années, qui vient naturellement après beaucoup d'autres inventions majeures qui ont été faites après la Seconde Guerre mondiale, un nouveau paradigme technologique émerge. Alors les économistes qui se sont penchés sur cette notion de révolution industrielle utilise en anglais un terme qui est celui de General Purpose Technology, c'est-à-dire une technologie à tout faire, c'est-à-dire une technologie qui vient en amont des applications qu'on peut en trouver. Le propre d'une révolution industrielle, c'est d'ouvrir un espace de possible qui excède l'intention de ceux qui ont eu les idées qui vont donner lieu à cette révolution industrielle. Donc, une anecdote très connue, c'est celle d'Edison, qui invente le gramophone en pensant qu'il permettra d'enregistrer le testament des mourants. C'est-à-dire qu'il fait une invention qui est complètement à côté de l'usage qu'on va en faire. On pourrait dire la même chose de l'électricité. On n'a pas du tout l'idée, quand on met au point l'électricité, qu'elle va permettre la télévision, le fer à repasser et toutes sortes d'autres choses. Une technologie à tout faire, une general purpose technology, c'est une technologie qui tout d'un coup ouvre le champ des possibles et fait que l'activité économique va consister à justement trouver des applications à cette nouvelle technologie qui est en amont. Eh bien, je crois qu'indiscutablement, on peut parler de troisième révolution industrielle pour caractériser le monde dans lequel on est. Et il ne faut pas s'étonner, j'aurai pas le temps de rentrer dans le détail, mais il ne faut pas s'étonner que, ce faisant, cette nouvelle technologie trouve des usages sociaux différents et donc un mode modes d'organisation du travail différents, comme auparavant la machine à vapeur avait créé son propre système économique, le factory system en anglais, comme l'électricité avait produit son propre système d'organisation du travail, l'organisation scientifique du travail, le taylorisme comme on l'appelle aussi. Le deuxième ressort qui va produire les transformations du monde contemporain, c'est, pour le dire très simplement, un essoufflement interne des réserves de productivité que l'ancien système, le travail à la chaîne, était capable de produire. On voit dans les années 60 s'essouffler, se ralentir les gains de productivité qui étaient associés au travail à la chaîne. On fabrique aux États-Unis des voitures dans les années 60, à peu près comme on en fabriquait au début du XXe siècle. Il n'y a pas eu de modification majeure entre les premières voitures qui sortent des chaînes de Ford et la façon dont on les fabrique encore en 1960. Et bien entendu, tout ça contribue à faire qu'une nouvelle inventivité est sollicitée, qui viendra d'ailleurs des usines Toyota, qui dans les années 60, lorsqu'elles voudront se doter d'une industrie automobile, eh bien verront que le travail à la chaîne est en réalité plus ou moins en panne. Une troisième rupture, c'est une critique, c'est d'une certaine manière un effet externe à la société industrielle, mais qui est très important. C'est un moment que j'associe à mai 68, et qui est tout simplement le fait que les nouvelles générations qui sortent des écoles et des universités en mai 68, dans les années 60 et à peu près dans le monde, eh bien tout simplement ne se reconnaissent pas dans un type d'organisation qui reste très paternaliste, très hiérarchique, qui est celui de la division du travail, la division industrielle du travail qui existe dans les usines fordistes. Ce système, au fond, repose sur l'idée que l'entreprise est à l'image de la société un ensemble hiérarchiquement soudé, dans lequel chacun obéit à l'étage qui lui est supérieur. C'est un système qui a été très efficient, très productif, lorsqu'il s'est agi au début du XXe siècle, comme le fait Ford, d'intégrer à la production des immigrés en masse qui viennent aux États-Unis au début du XXe siècle pour chercher un emploi. Ford dira dans ses mémoires cette phrase célèbre « Je ne cherche ni à ce que mes ouvriers sachent lire, écrire ou parler l'anglais. La seule chose que j'attends d'eux, c'est qu'ils ne boivent pas au travail. » Voilà la composition sociologique de la classe ouvrière qui ne fume pas. Bon, alors, pardon, très bien, qui ne fume pas. Et donc, voilà la composition sociologique de la classe ouvrière que Ford met au travail au début du XXe siècle et pour laquelle on comprend l'efficacité du travail à la chaîne. Dans les années 60, ce n'est plus les mêmes qui viennent travailler, c'est les petits-enfants de ceux qui sont venus travailler dans les usines Ford ou Renault, et la critique de mai 68, qui est au fond une protestation qu'on observe dans tous les pays industrialisés. Aucun pays industrialisé n'y échappe, ni l'Allemagne, ni le Japon, ni la France, ni l'Angleterre, ni les États-Unis, mais marque ce divorce qui s'est creusé entre les nouvelles générations et la façon de concevoir l'organisation de la production. Donc voilà un troisième thème qu'on pourrait élaborer qui va remettre en question le fonctionnement de la société industrielle. Les deux autres transformations, qui sont peut-être les plus importantes, sont d'une autre nature. La quatrième rupture, c'est la révolution financière. C'est la révolution financière des années 80. La finance a suivi une histoire propre au cours du XXe siècle, qui est beaucoup liée à la crise de 1929. Après 1929, on peut dire, pour aller très vite, que les marchés financiers ont été disqualifiés, délégitimés. Leur pouvoir de contrôle des organisations, des entreprises, a été affaibli, appauvri. C'est l'époque où les entreprises se dotent de managers, de dirigeants, qui, au fond, rendent très peu de comptes à leurs actionnaires, parce qu'ils considèrent que ces actionnaires sont en partie responsables du désastre économique des années 30 et de la suite, évidemment, que l'on a tous en tête. Et donc, dans les années 50 et 60, les dirigeants ne prennent plus leurs ordres auprès de leurs actionnaires et organisent le portefeuille d'activités dont je parlais de manière à se protéger eux-mêmes et leurs salariés des risques industriels. Avec la révolution financière des années 80, qui marque la fin de cette longue période de jachère des marchés financiers, qui est associée, Jean-Pierre Levat l'a très bien démontré, à la reprise de pouvoir des fonds de pension, notamment aux États-Unis, où on va autoriser les fonds de pension à investir dans les actions d'entreprises qui n'étaient pas autorisées auparavant, un nouveau pouvoir financier va émerger qui, naturellement, ne va pas se satisfaire de la manière dont le lien entre le pouvoir actionnarial et le pouvoir des dirigeants d'entreprise est organisé. Et pour résumer, là encore, avec l'anecdote que je donnais au départ, ce que ça va signifier pour les entreprises, une entreprise qui, auparavant, pour diversifier ses risques industriels, aurait fabriqué dans mon exemple hypothétique, des maillots de bain et des parapluies, eh bien, va être sommé, à partir des années 80, de choisir l'un ou l'autre, de se replier sur son cœur de cible, mais de ne pas chercher à faire deux activités pour lesquelles il ne peut pas avoir une double compétence. Pourquoi ce désintérêt des actionnaires pour ces stratégies de diversification d'activités qui étaient le propre des années 50 et 60? Bien, tout simplement parce que lorsqu'on est actionnaire et qu'on veut diversifier son risque industriel, il suffit d'acquérir une action de l'entreprise qui fabrique des maillots de bain et une action de l'entreprise qui fabrique de parapluies, on n'a absolument pas besoin que la même entreprise fabrique ces deux activités à la fois. Le propre des marchés financiers, c'est naturellement de permettre aux actionnaires de diversifier leurs risques sans avoir besoin que les entreprises le fassent à leur place. Et là, cette rupture financière des années 80, c'est peut-être le coup de tonnerre le plus retentissant, puisque à partir de ce moment-là, ce qui pouvait apparaître comme un lien, une solidarité entre les dirigeants d'entreprise et leurs employés, animés par ce même but de diversifier les risques industriels auxquels les uns et les autres sont confrontés, eh bien, cette solidarité entre les deux va être brisée. Les dirigeants vont être sortis, notamment par le mécanisme des stock-options, de la condition salariale qui était la leur auparavant, et les dirigeants vont tout simplement faire ce que les actionnaires, ce qui est la moindre des choses après tout, puisque c'est à eux qu'appartiennent l'entreprise, mais les effets sociaux seront considérables, c'est-à-dire les dirigeants vont chercher tout simplement à être les meilleurs dans le secteur d'activité auquel ils se consacrent, sans chercher à diversifier leurs risques. Et les études qui ont été faites par les économistes sur ce sujet sont sans appel. Chaque fois qu'une entreprise est cotée en bourse, son chiffre d'affaires devient presque nécessairement, quelques années plus tard, plus volatile qu'il n'était auparavant, parce que ce processus de mutualisation des risques qui pouvait exister auparavant est rompu. Cette crise ou cette rupture va contribuer pour beaucoup à cette transformation du capitalisme contemporain dans lequel, progressivement, les différents étages de la société qui étaient représentés dans la société industrielle au sein, on va dire, de la même entreprise, de la même usine, vont être progressivement dissociés. On va d'abord externaliser les tâches qui ne sont plus indispensables. On va d'abord faire ce que je viens de dire, c'est-à-dire dissocier secteur par secteur le cœur de cible des différentes entreprises. On va casser les grands conglomérats qui se sont constitués dans les années 50 et 60, et au fond, à l'exception de General Electric aujourd'hui, qui reste un conglomérat, il n'y a plus d'entreprises aujourd'hui, sinon des entreprises familiales d'ailleurs, qui ont plusieurs activités à la fois. Donc ça, c'est la première chose très importante. Et puis la deuxième, c'est que ces différents étages de la société, les ouvriers, les ingénieurs qui cohabitaient dans la même entreprise, vont être à leur tour dissociés. Les ingénieurs vont aller dans des bureaux d'études, vont même créer leur propre entreprise, c'est le cas de Microsoft par exemple. Si on se représente ce qu'aurait été le destin de Bill Gates dans les années 50, c'est très simple, il aurait été un ingénieur des usines IBM. Il n'aurait jamais fabriqué tout seul, en dehors de la grande entreprise dominante du secteur, sa propre entreprise. Donc, les ingénieurs vont sortir de l'entreprise, vont être regroupés dans des bureaux d'études, vont concevoir des logiciels à rayon planétaire, je vais y revenir dans un instant, et puis les ouvriers qui sont affectés à des tâches entre guillemets subalternes vont voir leur emploi externalisé dans des tâches spécialisées dans ces emplois subalternes. Pour donner une statistique qui résume cette formidable transformation qui va s'observer dans les années 80, les usines Renault dans les années 50 fabriquaient 80% de la voiture qui était vendue aux clients. Au fond, n'était achetée par les usines Renault que la tôle, les pneus, on a parlé de Michelin tout à l'heure, mais l'essentiel était fabriqué par les usines Renault. L'essentiel, c'est-à-dire y compris la personne qui, à l'entrée de l'usine, vous accueille, la cantine, le personnel d'entretien, enfin tout. Et puis aujourd'hui, la statistique concernant les usines Renault est exactement l'inverse. Aujourd'hui, Renault ne fabrique plus que 20% de la voiture qui est vendue aux clients. Tout le reste est externalisé à des sous-traitants qui prennent, au fond, une partie du risque lié à la modification des besoins de l'usine Renault et qui font qu'aujourd'hui, l'externalisation des emplois devient, dans cet exemple emblématique, la règle. Bien entendu, le personnel d'entretien, bien entendu, la cantine, bien entendu, le personnel qui, à l'accueil, vous reçoit, plus aucun de ces personnels n'appartiennent à l'entreprise, ne sont pas essentiels à l'entreprise, ils ne relèvent pas de l'activité d'entreprise, mais également les équipementiers tendent à s'autonomiser à l'égard de l'usine elle-même et fabriquer des produits en dehors de l'entreprise Renault. Donc voilà, pour partie, un des traits que la révolution la révolution financière, qui est une révolution donc tardive, qui a une histoire propre qu'on ne peut pas comprendre en dehors de 1929. Voilà quelques-uns des traits que la révolution financière des années 80 va emporter avec elle, qui va mettre fin à cette idée de société industrielle au sens où je l'ai résumé brièvement. Le cinquième terme, auquel je vais consacrer un peu plus de temps maintenant, c'est le cinquième terme, la cinquième rupture, qui va contribuer à transformer radicalement cette société industrielle, qui va tout simplement contribuer à changer, à faire changer de nature le capitalisme contemporain, c'est la mondialisation. Alors la mondialisation, que très souvent d'ailleurs dans le langage courant, on associe aux transformations dont je parle. Quand on critique la mondialisation, c'est au fond au nom de ce libéralisme, pour aller très vite, dont on affuble le capitalisme contemporain et dont on a vu à l'instant qu'il était tout de même une accumulation de ruptures, qui n'était pas toute d'ordre libéral, loin s'en faut. Peut-être la révolution financière, c'est sans doute ça qu'on a en tête, mais la transformation de mai 68, la révolution technologique, l'épuisement des ressorts intérieurs de l'usine, tout ça n'a rien à voir en réalité avec la révolution financière, avec la mondialisation. Mais la mondialisation devient très souvent un mot valise, comme on dit parfois, qui résume tous les termes, et je voudrais justement en parler un peu plus précisément. Pardon, Monsieur le Président, combien de temps ai-je en fait exactement pour que je puisse calibrer ? Bon, non, mais je ne vais pas abuser, mais encore... Ah bon, c'est très bien, alors j'ai beau... Au total, d'accord, au total.
Encore 2 minutes.
Donc j'ai fini, très bien, je vous remercie. Non, je rigole, moi aussi. Donc la mondialisation, cinquième terme. Alors cinquième terme, donc, qui est très important. Alors, si on voulait donner une image très étroite, et qui à mon avis, au premier ordre d'approximation, serait la bonne de la mondialisation, il faudrait dire juste une chose. La mondialisation, ça se limite... pour l'essentiel, au retour de la Chine et de l'Inde dans le concert des nations. C'est le retour de la Chine et de l'Inde dans le commerce international. Tout le reste, c'est de la littérature par rapport à ce fait absolument majeur. Ce fait majeur lui-même, pour le comprendre, exige qu'on résolve au préalable une autre question, qui est, si on veut savoir pourquoi la Chine et l'Inde ont décidé... Dans les années 80, au début des années 90, on dit souvent entre la mort de Mao et la chute du mur de Berlin, pour inclure bien sûr dans le compas aussi ce qui va se passer dans l'ex-URSS. Si on s'interroge sur le fait de savoir pourquoi la Chine et l'Inde ont décidé dans les années 80 et dans les années 90 de revenir participer au commerce international, la première vraie question est d'abord de comprendre pourquoi ils ont décidé tout au long du XXe siècle de s'en soustraire. Pourquoi, si je regarde la géographie du monde en 1975, par exemple, tant de nations sont en dehors du système des échanges mondiaux ? Pourquoi, en 1975, la Chine, l'Inde, le bloc qui gravite autour de l'ex-URSS, mais des pans entiers de l'Amérique latine et de l'Afrique aussi, sont en réalité en dehors du commerce mondial ? Pourquoi tous ces pays ont-ils choisi, au cours du XXe siècle, une voie de développement autarcique, protectionniste, soustrait au commerce mondial, alors même que le fait majeur, encore une fois, est qu'ils aient décidé d'y participer ensuite. Pour répondre à cette deuxième question qui commande la précédente et la réponse qu'on va lui donner, pourquoi tous ces pays ont-ils si longtemps choisi de se soustraire au commerce mondial ? Je crois que la réponse la plus simple encore, c'est de dire que tous ces pays, et là je pense spécifiquement à la Chine et à l'Inde, tous ces pays ont déjà participé un siècle plus tôt, au cours du 19e siècle, à une première mondialisation industrielle. Alors évidemment, on peut remonter en poupée gigogne les mondialisations remontées au 16e siècle, aux conquistadors, et peut-être même remonter bien avant, pour comprendre que le monde a toujours été mondialisé. Mais dans une séquence courte, qui est celle du capitalisme, qui par hypothèse n'existe qu'à partir de la fin du 18e siècle, le moment fondateur pour ces pays, c'est bien la première mondialisation qu'ils vont connaître au cours du 19e siècle. Cette première mondialisation, tout d'abord, pour en dire quelques mots très rapides, est d'une intensité au moins égale à celle que l'on connaît aujourd'hui. Tous les historiens qui se sont penchés, les historiens économiques qui se sont penchés sur la comparaison entre les deux mondialisations, celle du 19e siècle et celle qui a commencé dans les années 1980-90, en général s'accordent à dire que la mondialisation du 19e siècle n'était certainement pas en retrait sur celle qu'on connaît aujourd'hui. On peut d'ailleurs donner très brièvement les raisons pour lesquelles c'était comme ça. La première, c'est que la mondialisation aujourd'hui est liée, je le disais tout à l'heure, à une troisième révolution industrielle dans les techniques de communication, Internet notamment. La première mondialisation du 19e siècle, elle, c'est le véritable moment où la géographie du monde se rétrécit. Il fallait, au 18e siècle, une semaine pour envoyer une lettre de Londres à 300 km de la capitale. Il faut, au 19e siècle, 24 heures, enfin vers la deuxième moitié du 19e siècle, 24 heures pour que une information fasse le tour de la Terre. Dans le domaine des transformations qui sont apportées, on compte évidemment le télégraphe. On va avoir dans les domaines des moyens de transport, le chemin de fer, le bateau à vapeur, enfin toutes sortes de choses que je vous passe, le percement du canal de Suez. Bon, toutes sortes de choses qui font que, en réalité, l'information va circuler à une vitesse qui est totalement inédite à la fin de cette première période, ce dont les économistes vont prendre la mesure en regardant, par exemple, le cours des matières premières. Lorsqu'on regarde le cours des matières premières au début du 19e siècle, des écarts considérables peuvent encore exister entre le prix du blé à Chicago ou à Londres ou à Bombay. En 1913, lorsque s'interrompt cette première mondialisation, les écarts de cours ne dépassent pas 10%, ce qui veut dire que, un, on a l'information à 24 heures près sur le prix qui est coté sur une autre place, et que deux, on est capable d'envoyer la marchandise de l'endroit où elle est chère à l'endroit, l'inverse de l'endroit où elle est bon marché, à l'endroit où elle est chère. Premier signe de cette période. Deuxième signe, la globalisation financière. On a l'impression aujourd'hui qu'on vit sous le règne de cette globalisation financière qui est l'ombre portée dans les échanges internationaux de cette révolution financière dont je parlais tout à l'heure. En fait, en 1913, toujours ce point de référence, les exportations d'épargne, d'investissement qui sont faits par la City sont bien plus considérables que ceux qu'on observe aujourd'hui. En 1913, la City exporte plus de la moitié de l'épargne britannique outre-mer, ce qui fait dire à certains historiens que l'une des causes du déclin de l'Angleterre, du déclin relatif de l'Angleterre au cours du 19e siècle, tient à ce tic de la City d'exporter outre-mer l'épargne britannique au lieu de le réinvestir sur place. Dans le cas français, c'est un quart de l'épargne française qui est exportée à l'étranger, des quarts de l'épargne française qui est exportée à l'étranger. Ce sont des chiffres absolument considérables qu'on n'observe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, on observe exactement l'inverse. C'est la grande puissance des États-Unis qui importe du capital, et l'exportation nette de capital vers les pays les plus pauvres, en réalité, est négative. Donc on n'est pas du tout dans la même situation. On pourrait continuer les exemples. Un autre exemple, c'est la sécurité des contrats. Un des obstacles à la mondialisation aujourd'hui, c'est le fait que les contrats ne sont pas honorés comme ils le sont dans les métropoles, dans les pays émergents. On a toujours des répudiations, on a toujours des litiges. C'est extrêmement difficile de faire valoir la sécurité des contrats aujourd'hui dans le monde, alors même où la mondialisation devrait faire que ce problème soit réglé. Au 19e siècle, lorsqu'on pense à l'Inde, la sécurité du contrat à Bombay, le même qu'à Londres. On est dans la deuxième moitié du 19e siècle, dans un système de protection juridique qui fait qu'il n'y a pas d'incertitude sur ce point. Et un dernier trait, pour aller très très vite, celui des migrations. Aujourd'hui, on parle beaucoup des migrations comme un phénomène majeur. Le pourcentage de la population mondiale que l'on peut considérer comme immigrée, au sens où elle travaille dans un lieu qui n'est pas son lieu d'origine, représente 3% de la population mondiale. C'est évidemment beaucoup de monde, mais en pourcentage de la population totale, c'est 3 fois moins qu'en 1913, où 10% de la population mondiale était en fait immigrée compte tenu de ces immenses flux de population dont je parlais tout à l'heure, de la Sicile et de l'Ukraine vers les États-Unis, les différentes terres de peuplement qui sont ouvertes à ces populations au début du XXe siècle. Donc tout ça fait que, pour résumer ce point, la mondialisation du XIXe siècle est presque un laboratoire de ce qu'est la mondialisation à l'état pur. Il n'y a pas de limite, en tout cas pour ceux qui sont dans l'orbite britannique, c'est le cas de l'Inde et de la Chine. Or, qu'est-ce que cette mondialisation va produire pour ces pays ? Eh bien, la réponse est simple, rien. Quand on regarde le revenu par habitant d'un Indien au début de cette période, en 1820, et le même revenu par habitant en 1913, à la fin de cette période, le revenu par habitant est resté exactement le même. Le revenu relatif d'un Indien par rapport à un Anglais, lui, bien entendu, va se détériorer considérablement. En 1820, selon les études de Angus Madison, qui est l'expert en ce domaine, le rapport entre le revenu par habitant d'un Indien et d'un Anglais était de 1 à 2 en 1820. En 1913, ce rapport aura été multiplié par 5. Il sera devenu de 1 à 10, pour la raison simple que le revenu des Anglais aura été multiplié par 5, alors que celui des Indiens aura été stagnant. C'est au fond, fort de ce constat très simple, que la mondialisation ne les a pas aidés à rattraper les pays riches, que à l'heure de leur indépendance, tous ces pays, quelle que soit la couleur politique sous laquelle ce protectionnisme va s'habiller, tous ces pays vont choisir une voie de croissance autarcique, protectionniste, en dehors du commerce mondial, qu'il s'agisse donc de la Chine, de l'Inde, on pourrait parler de l'ex-Empire ottoman. Au début, la Turquie, nouvellement constituée, hésite sur la façon dont elle va définir son programme de croissance, et très vite, elle choisit elle aussi le protectionnisme, et bien entendu, après la Révolution russe, ce sera également le cas de ce qui allait devenir l'URSS. Donc, tout ça fait que tout le XXe siècle va être marqué pour tous ces pays, par un long glacis protectionniste. La tragédie pour ces pays, c'est que le protectionnisme qu'ils vont expérimenter au cours du XXe siècle ne va pas davantage les aider à rattraper les pays riches que la mondialisation du XIXe siècle ne leur avait permis de le faire. Les statistiques sont exactement aussi désarmantes au cours du XXe siècle qu'elles l'avaient été au cours du XIXe siècle. Aucun processus de convergence, ni en Chine, ni en ex-URSS, ni en Inde, ne va se mettre en œuvre qui permettrait à ces pays de rattraper les pays les plus riches. Et c'est ce constat d'échec à la fin du XXe siècle, qui est bien sûr concomitant de l'échec du communisme, qui est concomitant au fond de toutes ces idées d'une croissance économique planifiée, protectionniste, inscrite à l'écart du capitalisme mondial. C'est cet échec convergent qui va signer dans les années 80 le changement d'attitude de ces pays. Alors la question, bien entendu, maintenant, c'est de savoir si ces pays, passant, on va dire, du laisser-faire du commerce mondial du XIXe siècle au protectionnisme au XXe siècle, revenant aujourd'hui à une inscription dans le commerce mondial, bien vont connaître ce qu'ils ont déjà connu une première fois au XIXe siècle, c'est-à-dire un nouvel échec. Alors, pour éclairer cette question, je voudrais faire un petit détour, très bref, par la théorie économique, pour savoir ce qu'elle nous enseigne de la théorie du commerce international et de la manière dont on doit se représenter les effets pour la croissance d'un pays de son inscription dans le commerce international. Alors, la théorie, et pardon pour les éminents économistes qui sont autour de cette table, de ces très brefs rappels. La théorie économique standard du commerce international, c'est la théorie dite des avantages comparatifs de David Ricardo. Cette théorie de David Ricardo tient que chaque pays va se spécialiser dans un secteur d'activité où il dispose, par rapport aux autres pays, d'un avantage comparatif. Qu'est-ce que c'est que cet avantage comparatif et comment comprendre la logique qui est à l'œuvre ? Pour comprendre la logique de spécialisation des nations dans le commerce international que commente Ricardo, le plus simple est de revenir sur la théorie de la division du travail qui est celle d'Adam Smith. Ricardo, en réalité, ne fait rien d'autre qu'appliquer au commerce international la théorie de la spécialisation, la théorie de la division du travail que Adam Smith commente pour les économies de marché. Comment ça fonctionne dans le cas d'Adam Smith ? Et on reviendra à Ricardo dans un instant. Eh bien, dans le cas d'Adam Smith, c'est simple, là encore, chaque individu, vous, moi, toute personne, va choisir un métier. Il va choisir un métier, celui où, pour reprendre le langage de Ricardo, il dispose d'un avantage comparatif, non pas absolu, sinon il y a peu de gens qui feraient un métier, mais comparatif, c'est-à-dire tout simplement chacun s'interroge sur ce qu'il peut faire de mieux. Est-ce que je vais être cordonnier ? Est-ce que je vais être boulanger ? Est-ce que je vais être joueur de tennis ? Est-ce que je vais être mathématicien ? Ce sont des questions qu'on s'est tous posées à un moment de notre vie, et on tranche en disant, toute chose égale par ailleurs, compte tenu de mon talent, compte tenu peut-être de la profession de mes parents, compte tenu de ceci ou cela, compte tenu du plaisir que je vais y trouver. Il ne s'agit évidemment pas seulement de résumer ce choix à une question de rémunération financière. Compte tenu de ce que ce métier me rapporte au sens large, voilà le métier que je vais choisir en laissant les autres de côté. Et la modernité d'Adam Smith, c'est de dire, si chacun fait ce raisonnement, il n'y a pas de souci à se faire sur les autres métiers que vous ne ferez pas vous-même. Contrairement à ce qui se passait dans les sociétés pré-industrielles, où au fond, le ménage était l'unité où on faisait à peu près tout, le textile, l'agriculture et autre chose, dans une économie de marché, On peut se désintéresser de la question de savoir si on aura du pain ou pas, si on choisit d'être cordonnier, c'est la phrase la plus célèbre d'Adam Smith, parce qu'il sera dans l'intérêt du boulanger de vous fournir en pain, et parce que c'est son intérêt, et non pas parce que ce sera du fait de sa bienveillance que j'aurai ce pain, je peux, en effet, sans souci, ne pas avoir à me préoccuper du fait qu'en étant cordonnier, j'aurai du pain tous les matins. Voilà en quoi Adam Smith est, pour les économistes, le fondateur de notre discipline, notre économie politique, parce que c'est lui qui, en avant sur tous les autres, a compris qu'une société, une économie de marché, pouvait fonctionner de manière solidaire, alors même que chaque personne choisit de manière isolée sa propre activité. Appliqué aux nations, le même principe s'applique selon Ricardo. Chaque nation va choisir un secteur dans lequel cette nation est la meilleure, en laissant aux autres nations le soin de fournir, de la fournir dans ces marchandises que cette nation ne fabriquerait pas elle-même. Pour aller très très vite, si on a cette théorie, je pense qu'on peut dire honnêtement qu'il est très difficile de comprendre pourquoi au XIXe siècle, le commerce international a créé une telle disparité de destin entre l'Angleterre et l'Inde. Si en effet je choisis d'être cordonnier plutôt qu'être boulanger, il est tout à fait possible que je fasse une erreur de calcul. Il est tout à fait possible que je veuille être cordonnier alors même que les gens, pour des raisons X ou Y, décident de marcher pieds nus et que donc le secteur cordonnerie tombe en dissuétude. Il est bien évident que cette erreur, peut-être que j'aurai du mal à la corriger, peut-être même que je ne parviendrai pas à la corriger, mais il est certain que la génération d'après ne fera pas la même erreur. En fait, la génération d'après cessera d'être cordonnier, sera que boulanger dans l'exemple que je donnais, et la démonstration d'Adam Smith est là, qui dit que bon, bah, l'offre de cordonnier va se réduire, et un phénomène de gravitation, c'est une formule qu'utilise Adam Smith, va se mettre en place, qui fait que l'offre et la demande vont finir par s'équilibrer, sans que personne ne perde à avoir choisi un secteur plutôt qu'un autre. Donc, les forces de rééquilibrage des revenus sont très fortes, en tout cas dans le raisonnement d'Adam Smith, et on ne voit pas très bien pourquoi il ne s'appliquerait pas à l'échelle des nations. Bref, on ne voit pas pourquoi des nations pourraient voir leur destin se polariser de cette façon au nom de cette théorie. Alors, pour comprendre pourquoi la théorie du commerce international permet quand même de comprendre ces écarts de destin, les théoriciens modernes du commerce international, qui commencent à écrire dans les années 80-90, ont repris justement cette question de départ et y ont apporté une réponse tout à fait différente. Pourquoi est-ce que je choisis tel métier plutôt que tel autre ? Donc je vais l'actualiser dans des termes un peu plus modernes. Supposons que j'hésite entre être joueur de tennis ou mathématicien. Et supposons, par extraordinaire, que je sois en réalité totalement indifférent entre ces deux activités. Il m'est parfaitement indifférent, parce que j'y vois des avantages et des inconvénients dans les deux, à être mathématicien ou joueur de tennis. Qu'est-ce que je fais dans ce cas statistiquement improbable, mais théoriquement essentiel ? Si vous allez voir Ricardo et que vous lui posez la question, il peut vous donner deux réponses. La première réponse, c'est de dire « jetez une pièce en l'air et laissez le destin décider à votre place pour ne pas connaître le sort de l'âne de Buridan. Laissez le hasard décider à votre place de ce que vous ferez. Comme vous êtes indifférent, il n'y a aucune espèce d'importance à ce que vous fassiez telle ou telle autre activité. » Une autre réponse est possible pourtant, c'est de dire, au fond, puisque je suis indifférent entre ces deux activités, je peux parfaitement décider le matin de faire du tennis et l'après-midi de faire des mathématiques. J'ajouterai un peu de diversité à la monotonie de la vie que l'on mène lorsqu'on ne fait qu'un seul métier, et j'y gagnerai. Et quand on réfléchit comme ça, on a envie de dire que c'est oui, c'est ça la bonne réponse. Diversifions puisqu'on est indifférent. Si on réfléchit à cette réponse, on voit très vite qu'elle n'est pas la bonne. Il ne serait pas de bonne stratégie, dans ce cas d'indifférence, de faire l'une et l'autre de ces deux activités, de diversifier son portefeuille d'activités. Pourquoi ? Parce que pour être un bon joueur de tennis ou être un bon mathématicien, il faut faire des études dans le cas des mathématiques, un entraînement intensif dans le cas du tennis, qui fait que si on ne passe pas tout son temps à chercher à devenir le meilleur mathématicien possible que l'on peut être, c'est la théorie des avantages comparatifs, pas absolu, ou le meilleur joueur de tennis que l'on peut être, alors on sera à la fois un médiocre mathématicien, un médiocre joueur de tennis, et on gagnera moins que celui qui aura choisi de jeter la pièce en l'air et de se spécialiser dans l'une ou l'autre de ces deux tâches. Qu'est-ce que cet, au fond, éclairage nouveau nous apprend ? Mais elle nous apprend qu'un principe fondamental, qui n'est pas du tout celui sur lequel s'appuie Ricardo, est à l'œuvre lorsqu'on se spécialise. Ce principe, c'est tout simplement un principe de rendement d'échelle croissant. Il y a des rendements d'échelle à se spécialiser dans une tâche, parce qu'on peut acquérir en se spécialisant une compétence supérieure à celui qui ne se spécialise pas, parce qu'on peut réaliser des investissements primitif, une accumulation primitive, comme aurait dit Marx, qui vous rend productif. Si c'est ça le fondement de la division du travail au sein d'une économie de marché, et si c'est ce même fondement qui est à l'œuvre dans le cas du commerce international, alors on comprend beaucoup mieux pourquoi la mondialisation du 19e siècle n'a pas permis aux pays pauvres de rattraper les pays riches. Car la mondialisation ne fonctionne, l'économie de marché ne fonctionne que si chaque nation est capable d'investir dans là où les tâches qui vont le rendre productif. Le commerce international, pas plus que le commerce tout court, ne se substitue aux investissements que vous devez faire pour être productif. Et si on réfléchit à ce qu'était la situation des pays pauvres au XIXe siècle et la situation qui est celle aujourd'hui des pays les plus pauvres, on comprend qu'un pays très pauvre, en Afrique, qui n'a pas une population éduquée, qui n'a pas de route, qui n'a pas d'aéroport et qui souffre de problèmes de santé publique, on comprend très vite pourquoi ce pays ne profitera pas de la mondialisation. Les multinationales, tout simplement, dans ce cas-là, n'investiront pas dans ce pays, elles iront ailleurs. Elles iront ailleurs car ça n'est pas à elles de se substituer au pays pour se doter de ces investissements premiers qui permettent à un pays d'être productif. Et au fond, quand on dit les choses comme ça, on voit plusieurs traits apparaître. Le premier, c'est que le modèle pour tous ces pays qui aujourd'hui sont engagés, notamment en Asie, dans le commerce mondial, eh bien, c'est la prise de conscience du fait qu'il faut investir soi-même dans les ressources qui vous permettent d'être productif. Pour tous les pays asiatiques, le modèle, c'est le modèle japonais. Le Japon est un pays, en fait, c'est le seul exemple au XXe siècle d'un pays initialement pauvre qui devient riche à la fin du XXe siècle, a compris qu'un taux d'épargne très important est indispensable, qu'un taux de scolarisation est très important, pour devenir à son tour une nation riche. C'est le modèle que suit la Chine aujourd'hui, qui connaît des taux d'épargne absolument considérables, de l'ordre de 50% du revenu national, ce qui fait d'ailleurs qu'en partie, on peut comprendre leurs excédents commerciaux, et qui fait que leur participation au commerce mondial n'est pas passive comme elle était au XIXe siècle, mais bien active et tournée vers des investissements dans des activités stratégiques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que cette nouvelle théorie du commerce international basée sur la recherche de rendement d'échelle permet de comprendre, c'est que à la théorie de Ricardo, qui explique que les nations sont comme les individus dans une grande économie de marché, les économistes se sont progressivement davantage intéressés à un autre modèle qu'un historien français, Fernand Braudel, avait utilisé pour comprendre le fonctionnement de ce qu'il appelait les économies mondes. Dans le cadre de Braudel, une économie monde, c'est un centre et une périphérie. Le centre, c'est un lieu dans lequel se font tous les investissements, pour reprendre le langage que j'utilise, qui permettent, pour reprendre la métaphore dont je parlais tout à l'heure, d'être à la fois mathématicien, joueur de tennis, cordonnier, boulanger. Un centre, c'est un lieu dense dans lequel toutes les activités, ou le plus grand nombre d'activités, peut être représenté, ce qui crée en effet une complémentarité entre ces différents secteurs. Être dans une grande ville, dans les exemples de Braudel, c'est Venise, c'est Anvers, c'est Amsterdam et c'est Londres, c'est disposer de tous les biens qui peuvent être fournis. Être dans la périphérie, dans le cadre de cette théorie, c'est justement être obligé de se spécialiser en une seule activité. Étant pauvre, le pays, la région ne peut pas se permettre de s'investir dans plusieurs activités à la fois, donc on ne fera que des porcelaines dans telle région, que du textile dans telle autre, et à ce moment-là, les périphéries se retrouvent dans une situation de très grande vulnérabilité. N'étant pas, et ça fait le lien avec ce que je disais de la société industrielle, n'étant pas suffisamment diversifiées dans leurs activités, toute périphérie est susceptible d'être menacée par une autre périphérie qui aurait fait le même choix de spécialisation que cette première périphérie. Donc, cette polarisation entre un centre et cette périphérie, pour reprendre des expressions de Braudel, explique les tensions qui existent au niveau international. Et pour terminer sur ce premier point, dire quelques mots de conclusion, parce que j'ai l'impression que j'ai quand même trop parlé, je voudrais dire deux ou trois autres choses. La première, c'est que si on est habité par cette idée, si on utilise cette théorie du commerce international, on comprend un certain nombre de traits qui permettent de faire retour sur la notion de société post-industrielle. Dans les pays riches, ce qu'on va chercher à faire, c'est investir dans ces activités qui disposent du plus grand rendement d'échelle, des activités à rayon planétaire. Quelles sont-elles ? Bien, ce sont les activités qui se concentrent sur l'immatériel, c'est-à-dire les activités, on va dire, de recherche, de développement, de promotion d'une marque, de design, de choses qui, justement, peuvent être déclinées dans tous les pays du monde. Le propre des pays riches, c'est, pour prendre l'exemple de l'industrie pharmaceutique, d'inventer des molécules pour la planète. Une fois qu'une molécule est inventée, tous les corps, a priori, peuvent être soignés. On est dans le monde absolu des rendements d'échelle. Mais à l'autre bout de ces activités, les pays riches conservent aussi des activités de proximité. Si les premières activités matérielles sont des activités de conception du bien, les pays riches disposent aussi de l'autre versant que sont les activités de prescription. Pour prendre l'exemple de l'industrie pharmaceutique, on a d'un côté les laboratoires qui inventent des molécules, et puis à l'autre bout de la chaîne, on a des médecins qui, bien sûr, prescrivent ces molécules et soignent les corps. Le propre de la société post-industrielle, qui est aiguisée par cette mondialisation, c'est de polariser la chaîne de valeur, comme disent les économistes, entre ces deux points extrêmes, les activités de prescription, les médecins, les activités de conception, les laboratoires. Ce qui disparaît de cette chaîne de valeur, c'est l'activité tout simplement de fabrication du bien. Dans l'exemple des produits pharmaceutiques, fabriquer les médicaments génériques ne comporte aucun intérêt. N'importe qui peut le faire et personne ne va se disputer pour fabriquer des médicaments génériques. Ce sont les activités qui peuvent être externalisées dans des régions pauvres, dans des pays pauvres. La polarisation entre ces deux extrêmes, c'est une autre manière de faire retour sur cette notion de société post-industrielle, dans lequel deux types d'activités antinomiques, des activités de proximité, de face à face, comme disent aussi parfois les économistes, et des activités de conception en rayon planétaire, vont entre guillemets cohabiter. Je voudrais conclure par ce qui me paraît une différence très importante, ayant dit tout cela, entre la mondialisation aujourd'hui et celle d'hier, du 19e siècle, et celles qui ont précédé celles que décrit Braudel lorsqu'il parle des économies mondes des siècles antérieurs. Lorsque Braudel décrit la polarisation entre le centre et la périphérie, il dit « la périphérie est éloignée dans l'espace et éloignée aussi dans le temps ». Lorsqu'on est à 2000 km de Venise, on est beaucoup plus pauvre qu'à Venise, mais aussi on vit comme 2000 ans avant l'époque qui est celle où on fait cette photographie des deux. On est éloigné dans l'espace, on est éloigné dans la prospérité, et on est aussi éloigné dans le temps. Et Braudel dit, la vie à distance, c'est la vie dans la périphérie, loin du centre, c'est la vie au ralenti, c'est la vie éternelle du paysan, comme on pouvait le connaître 1000-2000 ans plus tôt. Je crois que le point fondamental qui permet de comprendre la différence entre cette manière de décrire les mondialisations antérieures et celle d'aujourd'hui, c'est que justement aujourd'hui, avec la révolution des moyens de communication, et notamment la télévision, Internet et toutes sortes d'autres manières de communiquer, les gens qui vivent à distance du centre ne vivent plus à distance dans l'espace. Aujourd'hui, les périphéries vivent de manière qui est d'une certaine façon synchrone de ce qui se passe au centre. Car l'un des traits peut-être nouveaux, inédits de la mondialisation aujourd'hui, c'est qu'elle diffuse beaucoup plus vite les images de la prospérité que la prospérité elle-même. À distance du centre, on est sans cesse renvoyé à des images d'un monde auquel on ne participe pas. La nouveauté de la mondialisation aujourd'hui, c'est qu'elle change l'horizon d'attente des pays et tarde, dans un très grand nombre de cas, les pays les plus pauvres, la moitié du monde qui vit avec moins de 2 dollars par jour, elle tarde à en diffuser la réalité. C'est ce décalage nouveau, très fort, qui explique la frustration qui, en général, accompagne ce terme de mondialisation et creuse un écart nouveau et inédit entre les attentes et la réalité du monde. Voilà, je vous remercie.
Vous venez d'entendre Daniel Cohen, professeur de sciences économiques à l'École normale supérieure, également directeur du Centre pour la recherche économique et ses applications, et l'auteur de « Trois leçons sur la société post-industrielle » publiées au Seuil en 2006. Il s'exprimait en séance le 23 octobre 2006 devant l'Académie des sciences morales et politiques sur le thème « Réflexion sur la société post-industrielle ».